Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment vivre dans un monde incertain? On en parle avec notre invité, l'auteur de La Passion de l'incertitude, qui paraît aux éditions de l'Observatoire. Il est philosophe et germaniste, il est spécialiste de Nietzsche. Il s'appelle Dorian Astor et il plaide ici pour un retour en grâce du doute dans une époque où l'incertitude est devenue la règle. Comment en faire son parti? Un traité des passions, comme il dit, en 68 fragments, nourri de références philosophiques. Ça va de Nietzsche à Bruno Latour ou encore à Gilles Deleuze, mais aussi de références psychanalytiques et musicales. Bonjour à vous, Dorian Astor.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à distance, suite aux nouvelles contraintes sanitaires, mais avec nous quand même, et ce jusqu'à 13h30. On entend beaucoup, depuis le début de la pandémie, que nous sommes entrés dans une époque incertaine, le temps de l'incertitude. Qu'est-ce que vous, vous mettez derrière ces mots?
Il me semble que... Chaque période, chaque époque est marquée par l'incertitude pour des questions évidentes que nous sommes pris dans le temps, dans le devenir et que nous ne savons pas tout et que nous ne savons pas grand-chose de l'avenir. Ce qu'on appelle entrer dans une période d'incertitude, comme vous dites, c'est toujours, me semble-t-il, lié à la capacité que nous avons instinctive, affective, pulsionnelle, j'ai l'habitude de dire de ce point de vue-là, que nous avons à affronter l'incertitude. Et il me semble qu'il y a des situations d'incertitude qui provoquent paradoxalement, et c'est une des thèses de mon ouvrage, qui provoquent des certitudes à proportion de l'angoisse créée par l'incertitude, et que ces certitudes-là me semblent plus dangereuses que l'incertitude. Le monde est incertain, ça c'est un fait, et ça ne change pas. Ce qui change, et ce qui me paraît, enfin on le voit à certaines périodes, mais ce qui me paraît extrêmement préoccupant, c'est précisément la production de certitudes radicales, aveugles, violentes, que produit ce monde incertain actuellement.
Si on vous comprend bien, il y aurait des bonnes et des mauvaises certitudes, des bonnes et une mauvaise incertitude également, puisque c'est le revers ou les deux faces d'une même médaille. Cette époque, elle est particulièrement incertaine, en tout cas elle est souvent présentée comme telle. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on a longtemps cru, et ça faisait partie de nos certitudes, qu'on était à l'abri des pandémies, qu'on était à l'abri des virus, que l'équivalent d'une grippe espagnole ne pouvait pas recommencer, que le progrès, la médecine nous avait mis à l'abri de ça?
Oui, ça je pense. Je pense que de manière générale, la conjonction de l'extrême progrès scientifique, technologique, d'une Europe plus ou moins, parce que ça aussi il y a beaucoup de d'illusions rétrospectives, mais d'une Europe plus ou moins pacifique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on voit bien que dans le monde les guerres n'ont pas cessé, eh bien cette illusion là plus évidemment les 30 glorieuses, pour le dire très vite, nous ont donné l'illusion que nous avions une maîtrise pleine et entière de notre destin, de notre culture et du monde, et y compris de la planète en réalité. Et il me semble, il me semble que ce qu'on a appelé par exemple avec la chute du bloc communiste la fin de l'histoire, on a eu en Occident tout un paradigme, à mon avis, les faits le prouvent aujourd'hui, complètement fantasmatique, voire délirant, cette idée que certaines valeurs, certains systèmes à la fois politiques, économiques, axiologiques, c'est-à-dire morales, avaient définitivement triomphé. Et il n'a pas fallu grand-chose, si j'ose dire, je le dis avec une certaine ironie, il a fallu au début du XXIe siècle, notamment le 11 septembre, Mais déjà avec la guerre dans les Balkans dans les années 90, il y aurait toute une liste d'événements qui nous montreraient que nous, évidemment, nous ne sommes jamais sortis de l'histoire et de l'histoire en tant qu'elle est le mouvement de conflit de valeurs. Et tout d'un coup, il nous semble découvrir, redécouvrir que à l'échelle planétaire, eh bien, des choses différentes importent à des gens différents. Et à une époque où certains ont tendance à parler de décadence, de perte des valeurs, on se rend compte au contraire que les valeurs se renforcent et se renforcent au point qu'elles deviennent ou redeviennent extrêmement belliqueuses, extrêmement violentes. Et évidemment, toute certitude, d'une certaine manière, est toujours liée à la force contraignante, j'allais dire coercitive, d'une valeur ou d'un système de valeurs.
Vous, le philosophe Dorian Astor, comment, par quel bout vous avez choisi de le prendre, ce mot, ce concept aussi d'incertitude, ce sentiment, cette notion-là, vous la distinguez d'autres notions. Alors bien sûr, il y a l'incertitude et son contraire, la certitude, mais il y a aussi d'autres concepts, d'autres sentis, comme le scepticisme ou la destinée, dont vous différenciez l'incertitude. Pourquoi être passé par ces concepts-là, ces idées-là?
Alors, en ce qui concerne la genèse de mon petit livre, La passion de l'incertitude, au départ, je voulais travailler sur le scepticisme et pas simplement faire une histoire du scepticisme philosophique, du scepticisme antique et de ses avatars modernes. Je voulais me pencher sur ce scepticisme très singulier que l'on trouve chez Nietzsche, puisque Nietzsche est l'auteur que je fréquente le plus et le plus volontiers, un scepticisme que Nietzsche appelait ultime, un scepticisme qui serait au fond plus courageux, plus risqué, plus affirmatif que le scepticisme antique, puisque le scepticisme antique au fond consistait à dire dans l'impossibilité où nous sommes de connaître, d'avoir un savoir certain, il vaut mieux suspendre son jugement. Ni oui, ni non. Le grand sceptique grec, Pyrrhon, en venait, une espèce de sublime nihiliste, en venait à dire les choses ne sont ni ainsi, ni non ainsi. Hein, avec ces paradoxes typiquement grecs et que permet la langue grecque. Et Nietzsche disait, mais au fond, ce ni oui, ni non, ne permet aucune affirmation ni du jugement, ni plus encore, ce qui était important pour Nietzsche, de la volonté, c'est-à-dire de notre puissance vitale d'affirmation. Et Nietzsche avait fini par soupçonner que les sceptiques antiques, au fond, étaient des faibles dans son langage, n'avaient pas cette force de volonté, et il a cherché une forme de scepticisme qui exprimerait au contraire une force de la volonté, une volonté de puissance, hein, le terme est toujours délicat à employer, c'est-à-dire une affirmation qui pourrait d'une certaine manière affirmer, qui pourrait non pas postuler ni oui ni non, c'est-à-dire en réalité ne rien juger, mais d'être capable d'affirmer oui et non, ou plusieurs oui, plusieurs non, c'est-à-dire en réalité un pluralisme, arriver à penser ensemble la complexité du monde, la complexité des interprétations, du sens, de telle manière qu'on puisse embrasser cette incertitude constitutive du réel, quelque chose que Gilles Deleuze, pour sa part, appelait les synthèses disjonctives. Un mot un peu compliqué pour dire que pouvoir synthétiser, penser ensemble en une unité complexe des disjonctions, des contradictions, des différences irréconciliables. Et si nous ne trouvons pas la force de penser et le courage, j'allais dire, hein, éthique, d'affirmer les contradictions, l'irréconciliable, eh bien forcément nous tombons soit dans une espèce d'apathie du jugement, un désintéressement, un indifférentisme, soit nous tombons dans une affirmation qui en préférant un certain oui, certaines valeurs, certains savoirs, va exclure absolument tout le reste. Et l'exclusion par le jugement finit toujours par des exclusions extrêmement concrètes liées à des violences politiques.
Et vous rappelez cet autre aphorisme de Nietzsche, hein, ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Il n'est pas facile à appliquer ce oui et ce non à l'époque, hein, Dorian Astor. On va passer de Nietzsche, si vous le voulez bien, à Édouard Philippe. Édouard Philippe, alors Premier ministre, on est le 4 mai 2020. Il évoquait devant les sénateurs le poids de l'incertitude. On l'écoute.
Pour tout le monde, l'incertitude sur la façon dont vont se passer les choses est exaspérante, inquiétante. Elle mine les décisions que nous avons à prendre. Elle fatigue ceux qui ne savent pas organiser leur vie future, leur vie familiale, leurs décisions, compte tenu des incertitudes. On pourrait dire des choses totalement définitives, très brutales, mais j'observe que ceux qui font les réponses les plus définitives en la matière ont rarement raison et se voient régulièrement obligés de changer complètement de pied, ce qui n'est jamais simple. Et donc je me garde de donner des réponses définitives en essayant au mieux d'expliquer les critères que je formule, que je mets sur la table, qui, s'ils sont réunis, permettent de passer à l'étape suivante. La méthode qui a été retenue par le gouvernement, c'est d'essayer de donner le maximum de lisibilité et peut-être même de prévisibilité aux décisions que nous prenons. Mais de certitude, c'est bien difficile.
Édouard Philippe, à propos de la ligne directrice du gouvernement dans le déconfinement, on était donc début mai, une petite semaine avant le premier déconfinement, sachant que nous sommes maintenant entrés dans le deuxième confinement, le reconfinement d'Orient Astor. Vous dites que le caractère vraiment inédit de l'incertitude que nous ressentons aujourd'hui, de l'incertitude dans laquelle ce petit virus nous a plongé, c'est peut-être sa dimension collective, ce comment allons-nous, où allons-nous, que nous arrive-t-il et la difficulté que nous avons à répondre à ces questions. Hein.
Oui, alors je suis frappé par cet extrait du discours d'Édouard Philippe que nous venons d'entendre parce que, entendu comme ça, j'allais dire sorti de son contexte, c'est un discours admirable, hein, en tout cas courageux et empreint d'une grande honnêteté. Le fait est que ça ne s'est pas passé, ça ne se passe pas et ça ne se passera pas de la manière dont Édouard Philippe le décrivait à l'époque. C'est-à-dire que pour des raisons à la fois impérieuses de décision politique et pour des questions de crédibilité, les décisions politiques doivent se donner ou veulent se donner pour appuyer sur des certitudes. Et il se trouve que le gouvernement, mais au sens large, je pense que toute décision, toute action politique travaille ainsi. Toute action se justifie, hein, face à l'opinion publique par des certitudes. Nous savons. Hein, il est quand même frappant, malgré tout, dans ce discours que Édouard Philippe, à un moment, parle des incertitudes que, comme vous disiez, nous, collectivement, nous devons subir.
Et nous savons, parce que c'est ce que nous attendrions du gouvernement, des pouvoirs publics, de savoir pour nous, parce que l'incertitude est fatigante, hein, elle n'est pas créative, elle n'est pas constructrice, elle est épuisante, elle empêche de prévoir, en fait, d'anticiper.
Oui, sauf que nous nous trouvons face à un paradoxe peut-être insurmontable, c'est que une décision gouvernementale à force de loi, c'est-à-dire que la décision politique tranche. Elle tranche et ne laisse pas la place à l'incertitude. Et du coup, savoir et croyance, preuve et crédibilité se trouvent complètement séparés. Or, rien dans le discours du gouvernement, ni rien, me semble-t-il, ou pas assez, dans les discours tels qu'on les entend dans les médias, hein, j'aime pas utiliser ce mot de manière si générale, la plupart du temps, ont des formes à la fois dans l'expression et j'allais dire presque dans la syntaxe, dans la logique mise en œuvre, ont la forme de la certitude. Simplement, nous avons affaire à des conflits permanents de certitude, au fond, j'allais dire, viscérales, qui sont liés à bien d'autres causes plus complexes que les seuls résultats d'études, d'analyses, de conseils scientifiques ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que la décision politique aujourd'hui s'appuie. Ça fait longtemps que la politique et dans les médias également, on s'appuie sur la parole des experts, des dits experts. Bon, quelquefois de vrais experts et quelquefois des experts qui s'improvisent ou qui s'autoprogramment tels. C'est-à-dire que nous avons quand même depuis longtemps l'habitude que le discours d'expertise s'associe au discours de l'autorité pour nous faire accepter un certain nombre de faits. C'est une politique du fait accompli. Or, ce qui est propre, me semble-t-il, à ce que j'appelle les processus de certification, c'est-à-dire à la méthode d'établissement des certitudes, dont la science, mais pas seulement, mais dont la science est un modèle, la méthode des processus de certification est incompatible avec le temps court, rapide, exponentiellement accéléré, non seulement de la décision politique, de sa réception dans les médias et de sa réception dans l'opinion publique et de son relais par les médias. Une certitude, hein, vous parliez tout à l'heure des bonnes et des mauvaises certitudes, oui, c'est ce que j'ai tendance à dire. En soi, rien n'est bon ni mauvais, ça dépend de quoi on parle sous un mot. Il me semble que les bonnes certitudes, entre guillemets, passent par des processus lents qui nous placent dans une temporalité elle-même trouée d'incertitudes. Prenons l'exemple de la méthode scientifique. L'établissement d'une vérité, entre guillemets, d'une vérité scientifique, d'un fait scientifique, ça passe d'abord par des hypothèses, quelquefois des hypothèses folles, chargées d'incertitudes. Il n'y a pas plus incertain qu'un scientifique. Ça passe par des hypothèses, par des mises à l'épreuve, des expérimentations, et puis des controverses, et puis l'établissement progressif d'un consensus, et à partir d'un consensus scientifique, une institutionnalisation qui, elle-même, pourra avoir des effets politiques. Bon, on le voit bien, par exemple, sur la question des vaccins. Certains scientifiques disent, ah, mais pour un vaccin, il faut quoi? 5 ans, 10 ans? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Les politiques nous parlent d'un vaccin dans 3 mois, 4 mois, 6 mois. On ne parle pas de la même chose. Le fait vaccin n'est pas en lui-même la même réalité pour un gouvernement que pour un scientifique qui l'élabore. J'ai vu dernièrement sur une chaîne d'information continue un journaliste qui disait « Alors, est-ce qu'on aura un vaccin ?» Le scientifique lui répond « Nous ne pouvons pas le dire. »« Ah, ça veut dire qu'on n'aura pas de vaccin. » Je n'ai pas dit cela. J'essaie de dire que nous ne savons ni à quel terme, ni si nous trouverons le bon vaccin, etc. On voyait qu'il y avait d'un côté la nécessité médiatique, politique, puisque c'est très articulé ensemble, de fixer une certitude, c'est-à-dire de donner un espoir. Hein. On parlait de la difficulté pour nous tous de vivre dans l'incertitude. Cette difficulté, on y répond de la manière la plus mauvaise en essayant de donner des certitudes, au point qu'on est capable de donner des certitudes fausses ou mensongères. Par exemple, au début, les masques ne servent à rien. Ça nous rassure, on ne porte pas de masque. Donc, ces certitudes-là qui n'ont absolument pas la même temporalité que les processus scientifiques de certification qui demandent du temps, eh bien, ces certitudes immédiates qui, fatalement, vont changer toutes les jours ou toutes les semaines, nous placent dans une angoisse bien plus grande que de ne simplement pas connaître l'avenir.
Parce que les médias, et vous n'aimez pas ce mot et moi non plus, mais parce que les médias assurent le spectacle, comme le rappelle l'un de vos maîtres, Guy Debord.
Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant.
Les médias assurent le spectacle. Nouveau à la revenue aux premières lignes de la société du spectacle de Guy Debord, lu par lui-même, en 1973, Dorian Astor. Le mouvement autonome du non-vivant. Certains médias agiraient non pas au bénéfice du doute, selon vous, mais en assénant des certitudes, parce que l'approximation, parce que la peur du vide, peut-être que l'incertitude créerait, en tout cas une parole qui ne s'afficherait pas comme telle, nous fait tous basculer dans cette spirale-là. Vous évoquez et vous évoquiez les pathologies de la certitude. Est-ce qu'on peut aussi évoquer et penser, pour mieux les réfléchir, les pathologies de l'incertitude ?
Oui, bien sûr. c'est compliqué. Il y a deux choses. Peut-être on reviendra, si on a le temps, à ces propos incroyables de Guy Debord sur la question du mensonge qui se ment à lui-même. Ça me paraît important. Mais pour répondre à votre question, moi, dans le livre, j'ai d'une certaine manière, j'ai un peu décroché du politique au moment où j'ai travaillé sur le... j'ai recherché des pathologies possibles de l'incertitude en posant l'hypothèse que ce qui était le plus préjudiciable à un individu, et j'ajoute par parenthèse peut-être à une collectivité ou à une culture, mais je ne le développe pas, ce qui serait le plus préjudiciable à un individu, ce serait ce que j'appelle les incertitudes du passé, bien davantage que les incertitudes de l'avenir. C'est-à-dire que j'ai essayé de voir, par différents exemples, et soutenu aussi par la psychanalyse, sur laquelle j'ai par ailleurs des réserves. Moi, j'ai grandi au lait de l'anti-Édipe de Deleuze et Guattari, mais peu importe, de ce point de vue-là, j'ai été bien obligé d'entendre ce qui se disait dans la psychanalyse, cette idée que ce qui fait souvent le plus souffrir, c'est l'incertitude, ce sont les incertitudes du passé. C'est-à-dire cette question, que m'est-il arrivé? Quel sens a eu ce qui m'est arrivé? Incertitude de l'origine, pour le dire en termes un peu plats, déficit de confiance en soi, de confiance dans l'avenir. On se rend compte qu'au fond, la force, voire la joie, mais en tout cas la force, le courage, le goût du risque qu'on peut avoir face à l'avenir est toujours déterminé par une espèce de réservoir de force et de confiance acquis, construit dans le passé. Et il me semble que toutes les situations où, les processus individuels, individuants de certification de soi, sont absolument déterminants pour nous armer ou non face aux incertitudes de l'avenir. Nous ne sommes pas tous égaux face à l'avenir, pas simplement en raison de nos conditions socio-culturelles ou que sais-je, mais aussi en fonction de cet édifice pulsionnel qu'est l'individu, la manière dont il s'est construit, dont il a été construit. Et voilà.
Certitude et incertitude sont les pôles entre lesquels une perspective se dessine. De la zone de puissance à la zone d'impuissance, écrivez-vous, Dorian Astor. Du pouvoir d'affecter à celui d'être affecté en un tissage inextricable. La certitude insiste dans l'incertitude et celle-ci dans celle-là. Elles font crainte. Invité jusqu'à 13h30, le philosophe Dorian Astor, à l'occasion de la parution aux éditions de l'Observatoire de la passion de l'incertitude. France Culture, il est 13h20.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Est-ce qu'on a définitivement basculé d'un monde à l'autre, à vos yeux, Dorian Astor? Est-ce que l'incertitude et la certitude ont toujours été et restent deux pôles entre lesquels nous balançons, deux marqueurs de nos sociétés modernes? Ou est-ce qu'on a définitivement basculé d'un côté ou de l'autre aujourd'hui?
C'est difficile à dire. Définitivement...
Temporairement, bon, vous avez peut-être raison. Bon,
voilà, voilà. Enfin, on peut jamais le dire, le sentiment d'une bascule définitive, cet affect-là du définitif, ça oui, on pourrait sans doute en parler. Pour nous donner un peu d'espoir, je voudrais citer un aphorisme du maître Opumain de Nietzsche où il dit en substance, je le cite de mémoire, que à chaque époque il y a toujours un monde en décomposition et un monde en devenir, et que il me semble important de toujours chercher les endroits, les lieux, les dimensions, les potentialités par lesquelles quelque chose peut être en devenir au milieu des processus de décomposition. En tout cas, il me semble... Alors ça, je reprends un peu l'idée à une amie philosophe qui me disait souvent, Myriam Corrigi, pour la nommer, spécialiste de Spinoza, entre autres, qui me disait souvent, nous avions une discussion, nous comparions souvent l'époque présente au XVIIe siècle. Comparaison étonnante, tant il y a de choses, d'éléments de différence. Et pourtant, au fond, ce qui s'est passé au XVIIe siècle, c'est que l'extraordinaire renforcement des certitudes scientifiques, la calculabilité de l'infini, par exemple, hein, le calcul intégral, etc., cette intrusion de l'infini dans le fini, hein, d'une certaine manière, a produit à la fois une espèce de sentiment très très grand de maîtrise, hein, de calculabilité, de rationalité. C'est une époque où la rationalité intellectuelle et où l'ordre politique se renforce, se rigidifie de manière extrêmement puissante, voire violente. Et c'est en même temps l'époque où notre manière d'embrasser l'infini, hein, on pense à Pascal, les hommes du XVIIe siècle, plongés dans une espèce de vertige incommensurable. Et au fond, aujourd'hui, quand on écoute un astrophysicien, nous sommes, enfin ils sont, puisque c'est très difficile de maîtriser ces connaissances-là, les astrophysiciens ou alors les physiciens quantiques sont confrontés sont à la fois à un niveau de scientificité extrême, et en même temps ils nous ouvrent sans cesse des portes sur un infini absolument effrayant. Et il me semble que alors là je parle de la science, mais que au niveau collectif, l'extrême, au fond, rationalité, une rationalité instrumentale, comme disait l'école de Francfort, c'est-à-dire en réalité aliénante. La rationalité, la calculabilité, certains diraient l'algorithme ou la gouvernance par l'algorithme. Enfin, cette maîtrise technologique, biotechnologique, scientifique, cette maîtrise est telle qu'en réalité, là où, c'est ce que nous disions tout à l'heure, nous tension à un certain moment être dans un mouvement incroyablement exponentiel de progrès. En vérité, ce qui est exponentiel, c'est notre saut dans l'infini. Et si l'incertitude prolifère, si le sentiment de l'incertain prolifère, si le monde devient de plus en plus incertain, alors que la raison le quadrille de mieux en mieux, jusque dans l'infinitésimal, jusqu'en dans l'infiniment grand, et ben c'est que quelque chose vient toujours va toujours plus vite que notre capacité à digérer, j'allais dire, hein, à inscrire dans nos corps ce que la connaissance ou la pensée nous permet de supporter. Nietzsche posait la question, quelle dose de vérité peut-on peut-on supporter ?
Et jusqu'ici, vous le racontez, vous le montrez bien, on a plutôt appris à la redouter, cette incertitude, hein, même et surtout dans nos sociétés où la technique et la technologie nous ont aidés à abolir, en tout cas, on le pensait, l'incertitude avec ce que vous appelez cette aspiration pathologique à la vérité. Mais vous, vous cherchez dans ce livre, qui ne s'appelle pas pour rien, Passion, la passion de l'incertitude, à réintroduire cette dialectique entre la crainte et la curiosité. Pour conclure, Dorian Astor, comment on fait pour transformer ce vertige de l'incertitude en éloge du risque, ce que vous faites à travers cette soixantaine de fragments, se dire que l'incertitude dans laquelle nous vivons est peut-être à saisir en fait, hein, comme on prend un pari sur la vie.
Oui. D'une certaine manière. Alors évidemment, vous avez raison hein, quand vous dites que je pratique une espèce d'éloge du risque, mais non pas du risque en un sens entrepreneurial, tout au contraire. Je pense que c'est lié au risque d'être un peu pathétique. Pour conclure, je pense que c'est beaucoup lié à une forme d'amour. Ce que les stoïciens et Nietzsche appelaient l'amor fati, l'amour du destin, qui est tout sauf un fatalisme, mais qui est une espèce d'acquiescement, non pas au fait accompli, ça c'est le mauvais fatalisme, mais l'acquiescement à l'infini des potentialités. C'est-à-dire que l'acquiescement à l'équivoque, l'acquiescement à l'absence de réponse, l'acquiescement à l'incertain, simplement parce que c'est notre destin, c'est l'être. L'être est équivoque, le sens est toujours équivoque. Et que nous autres humains, et sans doute tout vivant, avons des pratiques vitales, j'allais dire, de certification qui nous poussent à préférer et à exclure, comme disait Canguilhem. Canguilhem, c'est fatal, si l'on veut. Et si l'on arrive, d'une certaine manière, non pas à suspendre le jugement, mais à aimer ce rapport que notre pensée entretient avec l'être, avec le monde, à l'aimer dans sa difficulté, dans son incertitude même, à ce moment-là, ces virtualités, ces potentialités, souvent dangereuses, nous pourrons les embrasser et nous pourrons agir. C'est-à-dire que c'est un fatalisme paradoxal, c'est un fatalisme de l'invention, de la créativité. Il n'y a que dans l'acquiescement aux virtualités que l'on peut en actualiser quelques-unes et les moins mauvaises possibles.
Voilà pourquoi
c'est ce fatalisme du créateur, dirais-je, pour finir sur un paradoxe.
Oui, apprendre à cultiver cette passion qu'est l'incertitude. Merci beaucoup à vous, Dorian Astor, d'avoir été avec nous à distance. Merci, et je rappelle le titre de votre essai philosophique, La passion de l'incertitude, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci. Merci à toute l'équipe aussi de La Grande Table qui a préparé et programmé cette émission. À Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées. À Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table culture. Merci à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide toujours très très précieuse. À la réalisation, aujourd'hui Thomas Beau et Félicie Faugère avec Jean Frédérics à la technique. Demain, je vous donne rendez-vous dès midi avec le pianiste virtuose Alexandre Tarot, puis par la force des arbres, une invitation à prendre de la hauteur, celle de l'écrivain Édouard Cortès. Bel après-midi à tous sur France Culture.